Bonjour, c'est Myriam Leroy, vous écoutez Pop Pop Pop. Pop Pop Pop, c'est parti.
Pop Popien et tous les autres aussi, bonjour. C'est donc la saison 3 de Pop Pop qui démarre cette semaine et il aura fallu 427 émissions pour que notre invité d'aujourd'hui, François Damiens, pour ne pas le nommer, accepte enfin de mettre les pieds dans notre studio. Oui, voilà 2 ans que nous lui courons après, mais il court plus vite, ce qui n'a rien d'étonnant vu la taille de ses jambes, dont certains esprits malveillants n'hésitent pas à remarquer qu'elles remettent en question non pas les accords d'Oslo, mais les canons de l'harmonie gréco-romaine. Mais nous avons stoïquement supporté cette longue attente parce que tout est grand chez François Damiens, et pas que les jambes. Et aussi pour prouver à nos plus jeunes auditeurs que la patience finit toujours par être récompensée, comme le faisait si justement remarquer François Damiens, pas notre invité, mais son homonyme du XVIIIe siècle, qui avait tenté de poignarder Louis XV et dont le supplice n'avait pas duré moins de 2h15 de torture raffinée, conclue par un écartèlement à 4 chevaux. Oui, on savait vivre en ce temps-là. Non, notre François Damiens, à nous, est bien vivant, avec ses grandes jambes, comme je le disais, et cette tête dans laquelle il se passe plein de choses bizarres. Bref, l'invité dont nous rêvions tous depuis 427 émissions, donc le grand, allez, disons-le, l'immense François Damiens.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Paule.
À mes côtés, ma partenaire de jeu, Charline Roux, comme la roue sur laquelle fut roué le malheureux Damiens.
Bravo, merci de l'image, bonjour.
Bonjour Charline et bonjour François Damiens.
Bonjour Antoine, bonjour Charline.
Et bienvenue bonjour. Dans
merci
Pop,
de me recevoir.
Ah bon, on est ravis de vous avoir, parce que vraiment ça fait 427
j'imagine,
émissions.
Ouais, c'est des petits cadeaux du ciel.
Du ciel, carrément.
Carrément, ben oui.
Le ciel. Au menu de ce pop-pop-pop du jour, on va donc parler de foot. Non, alors pas exactement comme ça. Non, on va parler d'une fourmi qui joue au foot. Enfin, du nouveau film de Julien Rapneau qui s'appelle Fourmi, qui parle de foot, mais pas que, et qui sort la semaine prochaine. Et on en parle avec François Damiens, notre invité du jour. Mais avant ça, François, sachez qu'ici, il existe une question préliminaire. Une question qui peut faire encore plus mal qu'une réflexion de Jean-Claude Van Damme.
J'aime bien les belles choses. J'aime bien les belles femmes, les beaux hommes, ou j'aime bien les gens qui sont intelligents, ou j'aime même bien des nains qui savent bien peindre.
Des nains qui savent peindre.
Directement dans le vif du sujet.
Bien, nous y sommes. Et cette question, François Damiens, c'est... Pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses françoisisées, Damien Cisante, footballistiqueuses et même fourmillantes. Et parmi mes préférées, il y a celle du King Cantona.
Et la pop culture, je sais pas, ça peut être Jeff Koons. Hein.
C'est ce que vous voulez.
Au popcorn, au multiplex, et Jeff Koons dans le multiplex devant Robocop. Là.
Jeff Koons qui utilise un multiplex... Un quoi ?
Dans un multiplex qui mange du popcorn.
D'accord, ok. Bon. Et pour vous, François Damiens?
Moi, la pop culture, je dirais... Moi, ça m'évoque un souvenir. J'étais parti en Thaïlande quand j'avais 18 ans. Mm-hmm. Et j'avais un petit Walkman jaune Sony, là. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Très bien.
Et j'avais acheté une cassette de David Bowie, mais les anciens David Bowie. C'était déjà dans les années 95 mm-hmm. et c'était des années 70. Et je l'écoutais en boucle, Blue Jean, toutes ces chansons... Pour moi, c'est ça, la pop culture.
Le même petit Walkman Sony jaune que vous avez dans le film.
Exactement, ouais.
C'est vrai?
Ouais. À part que moi, il avait Auto Reverse. Et dans le film, il n'était pas Auto Reverse.
Ah.
J'avais le modèle au-dessus.
Ah.
Bah. Pour les jeunes qui nous écoutent, oui. La cassette était donc l'ancêtre du CD, du MP3, et ça avait pour particularité de pouvoir être emballé avec un stylo.
Voilà. Merci Charline pour ces précisions qui s'imposaient comme toutes les précisions. Alors la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après un morceau de Lizzo que nous adorons ici, et ça s'appelle « Cause I Love You ».
The fuck are fucking feelings, yo. Once upon a time I was a hoe. I don't even wanna hoe no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some more. Trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow. I'm gone.
hair pressed again. I would do it for you all, my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name. I thought that
I Love You, signé de la chanteuse Lizzo, qu'on pourrait traduire par « Parce que je t'aime ». Lizzo qui a retourné les MTV Video Music Awards il y a 2 jours, et la vidéo est à retrouver sur la page de l'émission. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec un photographe de charme semi-professionnel qui sait mettre ses modèles à l'aise.
T'es tendu comme une crampe.
Mais non, je suis pas tendu.
Si t'es tendu.
Bah non.
Si je te dis que t'es tendu, c'est pas entendu, je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha, c'est tout. Tu me dis oui, Claudie, c'est vrai, je suis tendu. Je suis pas à mon aise. Il faut que tu te laisses venir vers moi. Et je viendrai te chercher, t'inquiète pas.
Mais qui est-il, ce photographe de charme semi-professionnel? Et surtout, est-il toujours en activité? Réponse avec son pop-portrait. Alors, votre pop-portrait, François, c'est votre portrait, bien sûr, mais... Et c'est signé Charline...
Chut. Aujourd'hui, un invité obsédé par les gens, c'est lui qui le dit, obsédé au point de vouloir les incarner, tous, enfin surtout les plus bancales, et les confronter à d'autres gens, tout en les filmant. Bref, un invité qui a hissé dans ses caméras planquées l'art de la gêne au sommet. Un grand intérêt et une énorme capacité à faire vivre ces gens que le cinéma ne se prive pas d'exploiter, qu'il soit directeur de la société belgo-égyptienne d'élevage de poulets.
Un bras vert ou pour la peau au bas ?
Dans SS117, qu'il soit caméraman dans Cowboy, qu'il soit le fameux Claudie Faucan de Dickeneck, ou membre technicien d'une team dédiée au sauvetage de donzelles en détresse.
En fait, on leur ouvre leurs yeux, pas leurs jambes.
Ça, c'est dans l'arnaqueur. Le genre de comédien dans un second plan a brillé plus fort que les premiers, acteur hilarant et drôlement touchant aussi, puisque c'est au premier plan et en jouant les papas qu'il a arraché des larmes et quelques frissons d'angoisse aussi, au spectateur ébahi et définitivement conquis, le père de Suzanne dans le film du même nom, papa Rodolphe Bélier dans la famille du même nom, Daddy Alain dans Les Cowboys de Thomas Bideguin et Danny Versavel, daron inquiet pour son quête que notre invité a également réalisé. C'est aujourd'hui parce qu'il est le père, tiens, d'un prodige du football que nous sommes ravis de recevoir François Damiens.
J'ajoute, François Damiens, que vous parlez le néerlandais.
Il explique néerlandais, mais je...
J'ai une petite réaction en néerlandais.
Je parle en néerlandais un petit peu. Je peux dire une autre phrase un peu plus sophistiquée,
si allez-y. Ouais.
La goutte qui fait déborder le vase. Het is de druppel die de beek doet overlopen.
Ah oui, c'est vraiment du néerlandais.
Voilà, on est. C'est bien. C'est horrible, mais il ben y a un privé détective en Europe.
La goutte qui fait déborder le vase.
Voilà. Je suis Jean Plaqueurs, un détective privé de métier.
D'accord, très bien. Alors, voilà. Ça ne me donne pas la réponse à la question que je posais un peu plus tôt. Claudie Faucan, est-il toujours en activité?
Bah ouais, il essaye. La photo, ça a toujours été un truc qui m'a accompagné de loin et puis de plus près ces derniers temps. Parce que c'est vrai que je suis assez attaché aux clichés en général. Et de manière plus précise, les gros portraits, quoi, les portraits de face. Quoi. Ouais, c'est ça. J'aime pas trop les filtres, en fait. Je travaille sans filtre.
Bien. Eh bien, enlève ta petite culotte, tant que j'aille chercher le poney. La pop liste, pardon, la pop liste. Oh. François Damiens, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour ce qui est du livre, vous nous laissez le choix des biographies de navigateurs, dites-vous, sans préciser davantage. Charline, ce n'est pas la mer qui prend l'homme, paraît-il. Vous êtes d'accord avec ça?
Vous, la mer, vous a pris, je me souviens, c'était un mardi, précisément. Nous avons, enfin Antoine, hein, arbitrairement choisi, Vagabond des mers du Sud de Bernard Moitessier, qui à 27 ans est parti en solitaire à bord de Marie-Thérèse, une jonque avec laquelle il fera naufrage. Il a affronté durant 85 jours la mousson avant d'échouer aux îles Chagos, accueilli à l'île Maurice. Il a mis 3 ans à reconstruire un bateau pour reprendre la mer vers l'Afrique du Sud et les Antilles.
Mmh. Vous avez un extrait de ce livre de Bernard Moitessier sous les yeux, François. Auriez-vous l'amabilité de nous en lire un petit extrait?
Cette mousson du sud-ouest fut un enfer pour l'utile. Je devais me préparer à lire, en fait. Je m'étais préparé à parler.
Vous pouvez lire en parlant, si vous voulez.
Je réessaye.
Allez-y.
On coupera. Cette mousson du sud-ouest fut un enfer pour l'unité que nous représentons déjà. Un enfer au sein duquel l'idée qu'il pût exister autre chose ailleurs n'effleurait même pas l'esprit. C'est l'éternité des vents contraires et des coups de vent entrecoupés de calmes plats trop courts pour que la mer puisse s'apaiser. Et cela sous un ciel gris de saison, des pluies qui en bannissaient la plus belle divinité du matin, le soleil. Je ne devais plus être tout à fait un être humain. À la fin de notre première semaine dans l'océan Indien, une espèce d'animal aquatique plutôt mu par un instinct. Il faudra repasser pour la ponctuation.
Non, c'est très
Bernard Moitessier, Vagabond des mers du Sud.
Alors, j'ai pas lu toutes les biographies de navigateurs solitaires, mais celle de Bernard Moitessier qui m'avait absolument ébloui. Pourquoi est-ce que vous aimez ça, vous, ces bios-là?
Ben là, en l'occurrence, Bernard Moitessier, ce que j'avais bien aimé déjà, c'est qu'il était parti tout simplement... avec du riz et des oignons. Et donc il a fait le tour du monde avec du riz et des oignons. Il n'a mangé que ça.
À bord d'un bateau qui défiait les lois de la navigation.
Voilà, complètement. Ben, évidemment, sans un instrument de bord. Et puis, à la fin de sa course, quand il est arrivé, j'ai bien aimé le fait qu'il reparte. Parce que c'est vrai
qu'en fait, il participe à une course autour du monde,
voilà,
en solitaire. Il a franchi la ligne d'arrivée en premier et il ne s'est pas arrêté.
Voilà. Mais c'est vrai que c'est ça qui fait peur. Bon, moi, j'ai fait 2 fois une transat. Une fois à 4, et puis une fois avec un marin professionnel, Tanguy de la Motte. Mmh. Et c'est vrai que quand on est parti du Havre, on est arrivé au sud du Brésil, ça fait peur en fait. Quoi.
Oui.
Parce que quand on arrive directement, y a tous les bateaux viennent vous chercher en mer, et on était tout seul pendant 24 jours, et puis en un coup, il y a tout le monde qui arrive, et puis... Et voilà, c'est envahissant, quoi. Ça, ça fout complètement la trouille.
C'est le retour sur terre ferme qui fait peur, plus que l'aventure.
En plus, c'était un ponton flottant. Mmh. Et en arrivant au Brésil, ils m'ont filé une petite caipirinha. On n'avait rien bu pendant 24 jours. Et la caipirinha plus le ponton flottant, je suis vite retourné sur le bateau. Quoi. J'étais ni bien sur le bateau, ni bien sur la terre ferme. Et en fait, j'aime bien être un peu entre les deux. Quoi.
Vous préférez la voile comme compétition ou la voile d'une manière plus contemplative?
Non, plus contemplative. Ouais. Non, la compétition, c'est une opportunité qui s'est mise. Mais, mais non. Ce que j'aime bien, c'est rentrer dans les ports, sortir dans les ports, puis discuter avec les gens, l'entraide. Et puis, je pense que la mer, c'est encore un des derniers endroits où on peut être libre.
Ouais.
Je dis toujours à mes enfants, si vous voulez être libre, il faut être responsable. Mmh. Et inversement, si vous voulez être responsable, il faut que vous soyez libre aussi. Mmh. Et c'est vrai qu'en mer, si vous jetez un papier en rue ici, vous faites choper, c'est pas cool. En mer, vous pouvez décider de le lancer. Il n'y aura personne pour vous dire que vous ne pouvez pas le faire. Mmh. Et moi, j'aime bien en fait me mettre mes propres limites. J'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire.
Vous avez une passion pour la voile que vous pratiquez depuis vos 10 ans. La vapeur ne vous a jamais tenté?
La vapeur? Non. ouais, c'est une bonne question, Antoine. Tu viens me chercher sur... bon, si, évidemment qu'elle m'a tenté. Je sais pas complètement, il faut rester ouvert à tout, bien sûr. Mais je préfère la voile à la vapeur.
D'accord. Il n'y a pas de navigateur belge...
Tu as quel âge, toi, Antoine?
65.
Il n'y a pas de problème.
Ah, vous n'êtes pas regardant, c'est pas une question.
Non. Okay. Je m'intéresse à tout le monde.
Il y a peu de navigateurs belges, hein, pays où l'on ramasse pourtant beaucoup de moules.
Ouais, il y a Jean-Luc Van Den Ende qui est quand même pas le dernier. Hein.
Oui, mais enfin pas énormément, c'est pas très répandu.
Et il vient de gagner le Tour du Monde dans l'autre sens.
Ok, autant pour moi.
Pour moi c'est un des plus grands navigateurs. Il est d'une humilité folle, la preuve c'est que.
Tour du Monde dans l'autre sens, ça veut dire quoi le Tour du Monde à l'envers?
Ouais, c'est-à-dire que d'habitude on part vers le Cap.
Ouais.
Et puis on fait le tour par l'Australie.
Et lui, il l'a fait dans l'autre
sens. Et là, il est parti vent contraire, quoi.
D'accord.
Sur des bateaux comme dans les années 60-70, quoi.
D'accord.
Et donc, ils ont mis 8 mois. Et il est arrivé et il a fait très peu de déclarations comme ça. Et c'est un ancien enseignant belge qui habite à Nantes.
Bon, voilà pour le livre. Pour le film, vous avez choisi Monquette. C'est un film de François Damiens, vous, hein, pas le régicide, sorti en mai 2018. Charline Monquette, c'est mon fils, en français, parlez-nous-en. Pas de mon fils, hein, du film.
C'est l'histoire d'un baraqui qui s'échappe de prison pour reconquérir le cœur de son quête et lui enseigner tout ce qu'il peut en cavale. Particularité de l'objet, 25 des personnages présents dans le film ne savaient pas ce qu'ils faisaient puisqu'ils étaient filmés en caméra cachée.
Il est où ton papa?
Il est là.
Et oui, il est là. Et maintenant, il partira plus. Vous êtes avocate?
Je suis avocate, oui. Et si j'ai besoin de votre signature?
What's about? Ça parle de quoi?
Votre fils. On veut pas qu'il fasse la même chose, hein?
Comment la même chose? Ah, on va fonctionner en binôme. On va monter une entreprise.
Quand tu commences à courir, t'as du mal. Quand tu commences à fumer, ça fait mal.
Vous lui apprenez à fumer?
C'est un projet que... Ou ça, on a un projet commun.
C'est la première fois que je vois ça de ma vie.
C'est un peu bizarre.
Monquette, François Damiens, si vous choisissez ce film, François, parce que, dites-vous, c'est celui que vous avez le plus vu dans votre vie. François ouais. Damiens aime regarder François Damiens?
Non, pas spécialement, mais c'est vrai que pour ce film, en fait, comme c'était une histoire évolutive et chronologique, on a monté en même moment qu'on tournait, quoi. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé à la fin, 660 heures de rush, vous imaginez. Et normalement, un film, c'est entre 20 et 30, je pense, ouais, plus ouais. ou moins, ou 30 et 40, mais là, on est... Et parce que moi je voulais que l'histoire évolue, mais il fallait évidemment sélectionner les gens, les piéger pour faire évoluer l'histoire, pouvoir que ce soit crédible et que ce soit cohérent, quoi.
Vous réunissiez toutes les difficultés possibles au cinéma, c'est-à-dire à la fois de la caméra cachée et de la fiction, nécessité de fiction.
Ah, donc, c'était sincèrement.
Qu'est-ce que vous avez appris d'ailleurs avec Monquette?
J'ai appris que c'était extraordinaire de travailler en équipe, quoi. C'était un rêve pour moi de pouvoir imaginer une histoire et puis de mélanger la télévision au cinéma. Et j'ai pris mon équipe de caméra cachée avec laquelle je travaille depuis 20 ans. Et puis je l'ai associé à tous des chefs de poste avec lesquels j'avais tourné. Et mélanger la télévision et le cinéma, c'est pas si évident. C'est un peu comme mélanger de l'eau avec de l'huile, quoi. On peut boire de l'eau et on peut boire de l'huile, mais boire les deux en même temps, c'est plus compliqué.
Lesquels sont les plus gras entre la télévision et le cinéma?
C'est-à-dire, non, mais ce qui était compliqué, c'était que le cinéma, qui est un peu prétentieux, entre guillemets, regarder la télévision un peu de loin en disant, on fait pas une émission, on fait un film, j'explique en deux secondes, quoi. Et puis, il y avait la télévision qui répondait au cinéma, mais t'es déjà venu sur un plateau de caméra cachée? Non, bah alors de quoi tu parles en fait? Et moi j'étais un peu au milieu. Et en fait c'était rigolo parce que au début du film j'ai choisi les gens avec qui je voulais travailler. Et puis je me suis retrouvé au milieu d'un, entre guillemets, un petit merdier, quoi. Mais il commençait à avoir des coalitions, des trucs, c'était compliqué. Et puis j'ai été dépassé un peu par le nombre en fait. Parce que sur les caméras cachées on est 7-8, quoi. Ouais. Ici on était 50-60, quoi. Pour le son, une caméra cachée, il y a une personne.
Ça ne simplifie pas le travail.
5-6. Ouais.
Bon, passons à la série. Nous avons un film, passons à la série. Pour la série, vous avez choisi ça. Rien. Voilà, rien. Pourquoi ce choix?
Parce que j'ai pas le temps de regarder des séries.
D'accord. Alors, dans le supermarché géant de la pop culture, nous avons choisi pour vous Légumane. C'est une série télévisée belge fictive, diffusée à partir de 83 à l'intérieur de la vraie série télévisée pour la jeunesse Téléchat. Charline, ce légumane, c'était un légume doté de super pouvoirs. C'est pour ça qu'on disait en Belgique qu'il avait la frite.
Ouais, enfin lui, en l'occurrence, il était plutôt légume vert et feuille de salade. Un super héros combattant de super vilains tels qu'un aspirateur, un mixeur devenu fou, un pantalon, une veuve noire ou encore un mur.
Voilà qu'au supermarché, les légumes sont en danger. Une cuisinière surchauffée veut tous les ébouillanter. Les carottes sont-elles cuites? Non!
Légumane! Légumane!
Légumane! Vous le mettez dans votre panier quand même, légumane?
Ouais. Mais ça m'intéresse,
c'est la première fois que vous entendez ces sons. Hein.
Oui, tout à fait.
Parce que vraiment, vous ne regardez pas les séries, ni la télé.
Sincèrement, je n'ai jamais même pas regardé un bout d'épisode. Quoi.
C'est pas une posture. C'est-à-dire, vous ne regardez pas parce que ça ne vous intéresse pas.
J'ai jamais décidé que je ne regarderais pas de série, mais je ne l'ai pas fait, donc il faut croire que je fais autre chose à la place.
C'est chronophage d'observer les gens aussi, j'imagine.
Ah, c'est ce que je préfère. Mais ce qui est difficile, c'est qu'avec mon pied, en fait. Au début, je pouvais bien les regarder, les gens, quoi. Je me rappelle, à 15-16 ans, je me suis même fait choter par des jeunes ados, j'avais plutôt 12-13, parce que je les regardais. Et je dévisage les gens, mais je regarde leurs chaussettes, leurs lacets, tout, la ceinture, les yeux. Et voilà, ça prend du temps, déjà. Mais apparemment, je peux avoir Un petit regard, ça peut paraître pour un regard condescendant ou un peu hautain, alors que c'est pas du tout, c'est juste de l'observation pure. Mm-hmm. Moi, c'est ce que je préfère faire au monde.
Et si vous ne regardez pas de séries, vous ne regardez pas de films, vous regardez quand même les films dans lesquels vous jouez ?
Oh, pas spécialement, non. Ben, en l'occurrence, Fourmi, j'avais pas trop envie de le voir, quoi. Mm-hmm. Parce que...
Pourquoi ça vous met mal à l'aise de vous regarder ?
Mais vous avez déjà imaginé écouter votre répondeur sur votre téléphone. Mmh. C'est désagréable quand on vous dit « Merde, je me suis trompé, je me suis appelé » et puis on dit « Ah !» Alors, vous regardez, c'est une heure et demie où on se sent pas bien en sortant, quoi. Il faut mettre du déo, quoi. C'est pas agréable du tout. Et au plus, le film est proche de moi. Mmh. C'est classe, en l'occurrence, ici, parce que c'est un père alcoolique sans boulot, tu vois.
Mais un autoportrait, quoi.
C'est un rôle de composition. Non, mais c'est vrai que c'est... Autant regarder une caméra cachée quand je suis grimé, déguisé, tout ça, ça me pose pas de problème. Mais quand j'ai l'impression qu'on me filme en train de prendre ma douche ou aux toilettes, ou je sais pas, j'ai l'impression que j'ai... Au moins, il y a de filtres, au plus c'est compliqué pour moi.
Bien, François, terminons cette pop-liste avec votre chanson culte, et cette chanson, c'est celle-ci.
Plus rien ne ressemblait à rien, tu avais perdu le goût de l'eau, et moi celui de la conquête. Mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
Jacques Brel, Les Vieux Amants, un morceau de 67 que vous écoutez. Je vous observais avec beaucoup de gravité.
Ouais, ça me fait pas rire.
Ah, mais c'est pas drôle.
Non.
Ça vous émeut toujours ?
J'écoute Brel depuis que je suis tout petit, en fait. Mm-hmm. Je me rappelle quand j'étais petit, avec mes parents et mes frères et sœurs, on avait loué un mobile home aux États-Unis, on avait fait un tour. J'ai mis Brel tout le temps. J'avais 12-13 ans et depuis, je l'écoute tout le temps. Et Brel, quand j'écoute, en fait, si je suis pas bien, je me sens encore plus mal. Et si je suis bien, je me sens encore mieux. Mm-hmm. Et je sais pas,
Vous avez réussi à comprendre ce qui vous touchait à ce point chez Brel ?
Ouais, mais c'est cette envie de liberté qu'il a. Je supporte pas être cadenassé, je déteste.
Qu'il a appliqué à la fin
de
sa vie.
Les liens de subordination,
qu'il a appliqué à la fin de sa vie en partant son bateau.
Là. Ah bah là, je rêve d'y aller, aux Marquises. Là. Mais il faut 3 semaines, quoi.
Ouais.
Parce qu'on met 3-4 jours pour aller, 3-4 jours pour revenir. Et puis une fois que vous êtes là, vous ne pouvez pas repartir direct. Il faut voir un peu tout ce qu'il y a.
Ouais, mais sur les
et 3 semaines, ce n'est pas évident quand on a des enfants. Donc moi, je n'y ai toujours pas été. Mais je rêve d'y aller, quoi. En bateau, idéalement, quoi.
Vous réaliserez ce rêve, François Damien, ce jour. Vagabond des mers, Monquette, Jacques Brel et Légumane. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça nous donne ça.
Il est où, ton papa ?
Il est là.
Et oui, il est là. Et maintenant, il ne partira plus.
Bien sûr, nous eûmes des orages.
C'est l'éternité des vents contraires et des coups de vent entrecoupés de calmes plats.
What's about? Ça parle de quoi?
Légumane.
On va monter une enterprise.
Légumane.
Vous lui apprenez à fumer?
C'est un projet commun.
C'est la première fois que je vois ça de ma vie.
Mon doux, mon tendre, mon merveilleux.
Et voilà ce qui tourne dans la tête de François Damien en ce mercredi 28 août 2019.
Ouais,
vous y retrouvez ?
Ah oui, complètement, ouais.
Bon, ben ça tombe bien parce qu'on va continuer dans ce joyeux mélange avec la suite de Pop, juste après un morceau extrait du tout dernier album de Richard Hawley,
Further. Tu as des grandes feuilles, Antoine ?
J'ai quoi ?
Des grandes feuilles.
Des grandes feuilles pour écrire ?
Non. Oui, pour écrire.
Et le titre, c'est Alone.
Bridge staring across the lake.
France Inter, Pop, Antoine Decaune.
Et c'était Richard Hawley, Alone, extrait de Further, son quatrième album. François Damiens, puisque nous vous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, revenons à nos moutons, comme disent les légionnaires. Aujourd'hui, vous venez nous présenter Fourmi, le nouveau film de Julien Rapneau, adapté du roman graphique Dream Team de Mario Torrecillas et Arthur Laperla. Cette fourmi, c'est votre fils qui joue aussi bien sur le terrain qu'à l'écran, et cette fourmi va vouloir vous éloigner de votre penchant pour la bibine et de tous vos problèmes en vous faisant croire qu'il a été sélectionné à Arsenal. Bande annonce.
Il a fait ça pour son père, pour le sortir de son trou.
Mais t'as pas à t'occuper de lui, t'es pas responsable de tout le monde, hein.
Et cette fois-ci, vous allez vous battre.
C'est mon truc, la bagarre. Tellement merdé toutes ces années. Mais là, je vais y arriver.
La fourmi, y a pas un insecte qui a autant le sens du collectif. Tout pour la survie de l'équipe. Il va comme un grand surnom.
C'est un discours de papa, ça.
Fourmi de Julien Rapneau. Alors, question classique, François Damien, c'est quoi le plus dur, jouer avec des enfants ou des animaux?
Ici, en l'occurrence, c'était pas compliqué de jouer avec Malone Paquin, parce que c'est un petit enfant qui est tout à fait normal, entre guillemets. C'est pas, je pense qu'il est là pour les bonnes raisons, et puis il est très bien encadré par ses parents. Et donc, c'est un enfant... il est plus facile que la majorité des acteurs adultes, quoi. Mm-hmm. Il était complètement normal, il est tanké, il est basé, il est carré, il est sain dans sa tête. Et,
ça durera pas.
Pardon ?
Ça durera.
J'ai pas l'impression que ça va durer non plus. Il va vite devenir comme nous.
Mais sinon, à défaut de choisir entre les enfants et les animaux, c'est quoi le plus dur, jouer avec Eric et Ramzy ou avec Benoît Poelvoord ?
Ouais, c'est compliqué comme question. C'est vraiment compliqué. Benoît, il ne joue pas spécialement en fait. Il est tout le temps Benoît. Mm-hmm. Donc, comme je le pratique depuis longtemps. Je suis un peu accoutumé. Et Eric et Ramzy, on avait joué ensemble il y a très longtemps, puis j'ai refait un film avec Ramzy. Le truc, c'est qu'on est resté entre guillemets, des enfants, mais c'est même pas des adolescents, quoi. Mm-hmm. C'est des petits garçons, quoi, de rien du tout. Je me dis toujours, j'ai 46 ans aujourd'hui, je me disais, mais je me rappelle quand j'avais 46 ans, quand mon père avait 46 ans. Ouais.
C'est un
adulte. Et moi, je vois les blagues qu'on fait, mais c'est même pas dans les cours de récréation. Il faut même plus ça, quoi.
C'est une qualité indispensable pour jouer, non?
Je sais pas. J'ai l'impression qu'on a toujours besoin de tourner tout à la dérision. On peut être sérieux à certains moments, mais c'est vrai que moi, je sais pas rester sérieux longtemps, quoi. Là, après l'émission, j'aurais besoin de... de prendre un peu le large, quoi.
Alors, si on veut trouver un point commun entre Monquette et Fourmi, c'est qu'il s'agit à nouveau d'une histoire de paternité, l'histoire d'un père qui essaie de faire pour le mieux et qui fait tout le contraire. C'est un thème qui vous touche, ça, particulièrement?
Ouais, il n'y a rien qui me touche plus que ça, je pense. C'est un peu comme quand vous avez un enfant qui vient vous montrer son dessin qui est pas beau, ou quelqu'un qui vous reçoit et qui a cuisiné toute la journée et c'est mauvais. Moi, c'est un peu comme quand on voit parfois des gens, ah, tu étais voir le petit Arthur à l'hôpital. Et alors, tu le trouvais comment? Moi, c'est impossible de trouver un enfant en lait, quoi. Et j'ai toujours eu du mal avec évidemment, une maman, quand elle essaie de mettre son fils au monde, elle essaie de faire le plus beau des bébés. Mm-hmm. Et quand on cuisine et quand on fait un dessin et quand on fait quoi que ce soit, je trouve ça moche de voir quelqu'un qui met tout son cœur dans quelque chose. Ouais. Et ça marche pas. Alors là, je me fissure.
Et en particulier quand c'est une relation entre un père et son fils.
Oui, parce que c'est quelque part, ça parle de transmission, mais ici je dirais plutôt que ça parle de retransmission, parce que à un moment, quand le père Laurent dans le film, mon personnage, s'abandonne, mais évidemment il se retrouve abandonné. Et puis quand il y a plus personne, il y a plus que les enfants, quoi. Et on met les enfants dans des postures impossibles, quoi. Ils deviennent les parents de leurs parents, quoi. Ouais,
ouais. C'est ça la particularité de celui-là par rapport aux autres films que vous avez faits qui parlaient de filiation et de transmission. Comment ça se traduit, ça, sur un plateau, quand d'un seul coup c'est l'enfant qui devient l'adulte?
C'est assez particulier, quoi. Moi, avec Malome, dans le film, je lui disais toujours, regardons-nous dans les yeux, quoi. Ne jouons pas, on sait ce qu'on doit dire chacun. Et vivons, on n'est pas là pour jouer, on est juste là pour vivre ce qu'on ressent et en essayant. Enfin, moi, j'ai pas fait d'études de cinéma, ni de théâtre, ni de comédie, donc j'ai juste mon instinct, j'ai pas la technique, quoi. Ouais. Et lui, il a pas fait d'école non plus de comédie, donc on était obligé d'être un moment vrai, quoi. Ouais. Et à un moment, c'est cette véracité, j'espère du moins dans le film, j'espère qu'elle transpire, ouais, ou elle transpire un peu.
Elle passe tout à fait.
Mais il faut savoir aussi que c'est pas un film triste, quoi. C'est parce que
non, pas du
quand
tout,
on dépeint le personnage, ouais, de la relation, c'est un peu c'est un peu pathos, quoi.
Bah,
mais c'est un film qui est, franchement, j'ai été le voir avec ma femme et mes enfants. Je voulais pas le voir. Julien Rapto m'a coincé un jour au Burger King de la gare du Midi, de la gare du Nord, pardon. Et là, j'étais obligé de le voir. Et c'est vrai que je les ai regardés pendant tout le film, mais ils rigolaient, quoi.
C'est un film qui joue sur les deux registres. C'est ce qu'on appelle ce terme barbare d'un dramédie. Il y a du drame et il y a de la comédie dedans.
Mais j'avais entendu un feel good.
Feel good movie.
Oui, voilà, c'est ça que j'ai cherché. J'adore ce mot.
Mais ce principe, c'est quelque chose qui traverse en même temps toute votre filmographie. Il y a toujours aussi une dimension tragique dans vos rôles comiques. On a l'impression que vous assurez à la fois l'Auguste et le clown blanc tout seul.
Ah, mais j'aime pas rire pour rire, en fait. J'aime pas les blagues, par exemple. Mm-hmm. Mais j'aime bien partir d'un truc profond, un truc sérieux, un truc qui fait mal, qui... Ah oui, douloureux. Et puis de là, en rire, quoi. Mais j'aime pas la pleur de banane, moi, ça me fait pas trop rire, quoi.
Ouais.
Et ici, ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est que on peut le regarder à travers le prisme d'un enfant, d'un adulte, d'un grand-parent, d'un... Tout le monde, évidemment, il n'y a pas de permis pour être père, quoi. Je veux dire, tout le monde est père qui veut, évidemment. Après ça, il y a celui qui assure pas, et c'est ça qui... J'espère qu'il n'y aura jamais de permis, parce que dans une société où tout le monde est...
C'est difficile de jouer quelqu'un comme votre personnage qui est tombé dans la gourde.
Oui, c'est difficile. Mais oui, j'avais un peu peur, en fait. C'est un peu la seule peur que j'avais. Hein, parce que quand j'ai rencontré Julien Rapneau, je l'ai adoré directement. Quoi. J'ai l'impression que c'était un cousin, un frère, quelqu'un que je connaissais depuis toujours. Et moi, ce qui me faisait peur, c'était le fait qu'il picole, quoi. Parce que jouer quelqu'un qui
quand
boit...
c'est mal joué, c'est catastrophique.
C'est triste, souhait, quoi. C'était une comédie, donc il fallait en faire un peu, mais pas trop. Donc je disais, laisse-moi en faire une toute douce, quoi.
Je sais pas si c'est un compliment, mais vous jouez à la perfection.
Bah, c'est un rôle de composition, Antoine.
Moi, j'ai ouï dire que votre expérience de la chose avait été très précoce. Une histoire de... Vous étiez enfant, perdu dans un supermarché, et vous avez été retrouvé dans un endroit bien particulier.
Ah ouais, t'es voir les annales.
Ouais. Bah, racontez, je vous en supplie, vous étiez où?
Un jour, j'étais au Deleuze. Deleuze, c'est un peu comme un Leclerc en France, près de chez moi, avec ma mère. Et moi, j'adore les supermarchés, j'adore faire des courses, tout ça, je suis un fou de ça. Et ma mère m'avait perdu. Et donc, elle arrive à la caisse, elle paye, et puis elle ne me voit toujours pas. Et donc, ils ont fait un appel au micro. Et moi, j'étais parti dans les réserves du supermarché, j'entendais pas le micro. Et donc ils m'ont retrouvé, j'étais assis sur un bac de bière et je finissais les fonds des vidanges de bière.
C'est Obélix, quoi.
Explique cela.
Ouais, pas d'amalgame non plus.
Bon, non, pas d'amalgamatif. Alors, ça s'appelle Fourmi, c'est le deuxième film
de
Julien Rapneau.
Cette question.
Pardon.
On va continuer à en parler dans quelques instants, François Damiens, mais pour l'heure, est-ce que vous savez faire ça?
Ouais.
Vous savez pas faire. Non, vous avez triché là. Non, il l'a pas fait. Non, enfin, bon, c'est pas grave, c'est pour lancer les pop news.
Préparez-vous à trembler et à trembler français. Ce, grâce à Marianne, une nouvelle série de peur créée et réalisée par Samuel Baudin. Et Marianne est le nom d'un esprit malveillant, celui qui pousse Emma, une jeune romancière, qui découvre que ses personnages monstrueux sont en train de prendre vie, à retourner dans sa ville natale pour affronter les démons du passé qui l'ont poussée à écrire.
Cette chose me suit dans mes cauchemars depuis mon enfance.
Quelle chose ?
Marianne.
C'est une sorcière.
Privée de corps et l'air, elle investit ton âme. J'ai écrit ces bouquins pour lutter contre elle.
Et comment Lizzie se débarrasse de Marianne ?
Je sais pas.
Et Marianne, ce sera le 13 septembre sur Netflix.
Mondino Depp, deuxième. Le réalisateur, clipper, photographe et le comédien ont de nouveau collaboré pour une publicité pour du parfum. Une ode à la culture amérindienne, chère à Johnny, qui joue de la guitare, les accords de Rumble, de Link Wray, dans les grands espaces. Un indien danse, une jeune femme cachée sous une fourrure observe le tout dans un spot à forte dimension symbolique que Johnny Depp décrit comme une lettre d'amour. Ça sent bon, c'est beau et c'est dorénavant sur vos écrans.
L'un des plus beaux titres de cette rentrée littéraire est celui d'une bande dessinée signée Emmanuel Rosé et Nicolas Roux, soit « Faut pas prendre les cons pour des gens ». Une BD dans laquelle le non-sens est roi et donc l'objectif est, je cite, « de faire bouillir la débilité ambiante dans ses contradictions. Racisme ordinaire, mesures gouvernementales étranges, bien-pensance, prêtres pédophiles, télétravail, maisons connectées, quotas policiers, surpopulation carcérale, traitement des réfugiés. Tout y passe, c'est aussi drôle que grinçant, c'est édité par Flûte Glaciale et c'est évidemment un cadeau pour vous, François Damiens.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
Oh yes, it's me.
Johnny Depp.
Mais oui, bien bravo, sûr, bravo Charlina. François Damiens, ne bougez pas, on continue à parler de pop dans la suite de Pop Pop Pop. Juste après, Stones, c'est un morceau extrait du dernier album de Springsteen.
De qui ?
L'album que j'ai vraiment le plus écouté cet été, que je continue à écouter inlassablement, Western Stars. Écoutez ça.
I woke up this morning with stones in my mouth. Said those were only the lies you've told me. Those are only the lies you've told me. I pulled my collar to the wind and spit them on the ground. You said those are only the lies you've told me. Those are only the lies you've told me. You sat on the edge of our bed in the sun. I felt them gather on my tongue.
Thank you.
Stones, c'est un morceau signé Bruce Springsteen, cet extrait de Western Stars, son dernier album, évidemment indispensable. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et ça, François Damiens ne sait pas le faire, car oui, nous sommes en compagnie de François Damiens. Venez nous parler de Fourmi, le nouveau film de Julien Rapneau, sur les écrans mercredi prochain. Alors vous aviez déclaré il y a quelque temps, ouais, au journal Le Parisien, préférer les comédies qui reposent sur des sujets graves pour éviter le ton sur ton. On est en plein dans le mille là, avec Fourmi.
Bah oui, c'est vrai que c'est un film qui peut paraître sur papier, même quand on voit la bande-annonce, un peu tristounet, un peu... mélancolique, un peu dur, et en fait on la façon dont Julien Rapneau l'a traité, c'est un film qui s'avère être léger, ouais. Et on se prend à rire parce que quelque part, par exemple, quand on voit le père qui vient voir son gamin jouer au foot et qu'il arrive bourré, ouais, comme un tank,
qui fout la honte,
il fout la honte, ouais, à un point pas possible. C'est triste en soi, mais ça redevient marrant, quoi. Ouais. Donc on bascule de la tragédie à la comédie, et ça me fait vraiment penser en fait, moi, quand j'étais petit, j'étais un peu, à certains moments de mon adolescence, gêné de mes parents, quoi. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que mes enfants sont gênés de moi, quoi. C'est bizarre. Pourtant, c'est j'ai l'impression d'être cool.
Non, ils sont gênés, mais... Qu'est-ce qui les gêne le plus, pire, quoi. Qu'est-ce qui les gêne le plus, vos enfants?
Bah, c'est que je leur fous un peu toujours la honte, quoi. Quand ils invitent un copain à manger, par exemple, à table, je sais même pas comment je peux l'expliquer, mais
ça fait partie des privilèges des parents. Si on peut pas un peu mettre la honte à nos enfants.
Mais oui, mais après ça, je leur dis, pourquoi t'as personne à la maison? On me dit, mais t'as déjà vu quand j'invite quelqu'un ce que tu fais?
Et qu'est-ce que vous faites?
je vais pas dire que c'est subtil, mais c'est pas, je pas le gros bourrin à table, quoi. Ouais. Mais je fais des tout petits trucs. Oups. Je ne divers pas. Tu vois, des tout petits trucs où... Parce que c'est blague, où tu peux même pas dire que c'est une blague. Parce que, tu vois, c'est comme si je te présentais, je présente Jean-Antoine. Tu vas pas dire, ah non, je m'appelle pas Jean-Antoine, je m'appelle Antoine. Mais en attendant, le mec, après ça, il pense que tu t'appelles Jean-Antoine. Et tu vois, j'aime bien quand tu peux pas le dire, en fait. Ouais, le truc où c'est tellement bête que ça a rien de le soulever. Mais en attendant, c'est là et ça reste, quoi.
Et pour en revenir au film, au-delà des soucis du père, le film est inscrit dans une réalité sociale assez dure, une zone sinistrée en matière d'emploi. Un contexte qui a aidé à travailler l'humanité des personnages, comme le dit Julien Rapneau, votre réalisateur.
Bah oui, mais à la fois, une fois de plus, Pierre Cottreau...
Mais dit comme ça, ça a l'air d'être tragique, mais en fait, ça amène quelque chose de particulier.
Ouais, parce que on n'est pas à Liverpool, quoi, dans le film. Et on n'est pas non plus dans les beaux quartiers. Je trouve qu'on est dans un truc... normal, qui n'appelle pas de commentaires. Et tout ça, éclairé par Pierre Cottreau, avec qui j'avais la chance de tourner, qui est un super chef opérateur, qui a réussi, c'était au Témoin d'un doute, on a fait ensemble, et puis ici. C'est deux films, pour moi, qui appartiennent un peu à la même famille dans ma tête. Et je trouve qu'il a réussi à faire des images qui sont chaleureuses, qui sont chaudes. Ouais. Justement, dans ce que le film pourrait avoir un peu douloureux, il a réussi... à travers sa lumière, à le rendre doux et cocoonesque.
Cherchez ces mots-là. Merci
Charlène.
Vous avez aussi déclaré récemment que vous...
J'ai déclaré plein de trucs aussi à la fois.
Vous en dites des choses.
Faire gaffe à ce que vous dites, parce que c'est repris à chaque fois. Vous avez dit que vous rêviez de jouer un gros dégueulasse ou un tueur en série. Alors j'ai l'impression que ça ne meurt pas tout à fait pour le tueur en série, mais quid du gros dégueulasse?
Gros dégueulasse... Je crois que j'aurais pas assez avec ma vie pour jouer des gros dégueulasses. C'est ce que je préfère faire, quoi. Moi, je me dis
ça
toujours...
sera la somme de tous ces personnages.
Ben oui, mais je pense que pour moi, l'élégance, c'est tout ce qui ne se voit pas, en fait. C'est pas la personne qui ouvre la portière, qui met une belle chemise avec un col bien abidonné. C'est pas ça, l'élégance, pour moi, elle est très, morale. Très subtile.
Elle est morale.
Voilà. Et donc, quand je joue un grand dégueulasse, c'est pour dénoncer tous les trucs dont on peut pas parler. Un peu comme le harcèlement ou les trucs. À partir du moment où on met son doigt dedans, on est foutu, quoi. Dire à son employeur, tu me regardes pas bien, c'est impossible à dire. Parce qu'évidemment, ça sort contre vous à la seconde, quoi. Vous me parlez pas bien, vous me considérez pas, mais on peut pas dire ça. Ouais. Et c'est tout ça que j'ai envie de à travers les personnages dans les caméras cachées ou dans les films, c'est cette espèce de petite, abus de pouvoir, misérabiliste, quoi. Mmh. C'est la tristesse humaine, quelque part. Quoi.
Dans le film, le contexte footballistique a aussi son importance. Est-ce que vous étiez au niveau et quel est votre club de cœur?
Mon club de cœur, c'est Anderlecht, mais bon, quelque part, je ne sais même pas s'ils sont derniers ou premiers championnat, je m'en fous un peu. Et ici, dans le cas du film, c'était un prétexte, le foot, quoi. Le petit aurait pu être sélectionné pour aller jouer dans un film à Hollywood, quoi. Le foot, c'est un tapis social où il y a beaucoup de choses où on peut raconter beaucoup de choses, quoi. La projection des parents qui essaient de faire réussir leurs enfants là où ils ont raté. Et puis c'est là aussi on vous apprend que vous pensez être Maradona et puis en fait vous êtes pas sélectionné. Puis je trouve c'est très riche comme plein de milieux évidemment. Enfin comme quoi?
Je voudrais bien.
C'était bien, non? Comment répondre?
Oui, c'était bien.
Ouais,
c'était bien.
Mais je le vois dans. Ouais.
Moi, je voudrais bien finir par un mot sur ces enfants qui jouent. Alors, évidemment, vos partenaires, hein, Ludivine Sagnier, Laetitia Doche, Sébastien Chassagne.
Et André Dussolier.
Et André Dussolier, qui sont tous d'une justesse invraisemblable. C'est deux mômes. Alors, il y a Malôme Paquin, qui joue le petit Théo, votre fils, et puis cet autre petit garçon qui s'appelle Pierre Gommet, qui joue Max, le copain geek de Fourmi, hein, le personnage, qui ne sort jamais de sa chambre. Ce qu'on appelle un Niki Komori au Japon, où c'est, paraît-il, devenu un phénomène. Des mômes qui ne veulent plus sortir de sa chambre, qui ne vivent que reliés au virtuel.
Ouais.
Ces deux mômes, ces deux acteurs sont stupéfiants.
Mais c'est vrai qu'il y en a un qui est tourné vers l'extérieur, Malôme Paquin, en l'occurrence mon fils en film, et l'autre
Pierre Gommet,
voilà, qui lui est tourné vers l'intérieur, quoi. Mais moi, ça me fout la trouille, ce truc-là. Moi, j'ai jamais été adepte des jeux vidéo. Déjà, je suis pas adepte de la télé, donc.
Mais là, en l'occurrence, l'enfant est agoraphobe, mais extrêmement brillant.
Ah bah oui, mais ils sont souvent brillants.
Non, et un jeune comédien qui évoque, c'est Julien Rapneau qui le souligne, Jean Rochefort. Il y a quelque chose de Jean Rochefort chez lui.
Ouais, c'est vrai.
Qui nous a beaucoup troublé.
Au niveau du faciès,
c'est vrai.
Non, mais c'est vrai.
Qu'est-ce que vous croyez que je raconte des conneries?
Bon. Non, pas du tout.
François Damien.
Je suis transpercé par cette fulgurance.
Moi, je me rappelle de Jean Rochefort. On l'avait vu. Tu te rappelles à l'époque des Césars. Il était venu me voir après les Césars quand on était au Fouquet. Il m'avait dit t'as un barbecue, toi? Et puis j'ai dit oui. Et puis il me dit c'est quoi comme genre de barbecue? J'ai dit c'est un petit barbecue, genre un aluminium, là, je sais pas quoi. Et puis il me dit tu peux t'en acheter un dur. Ça m'était resté.
François Damien, son approche de la fin de cette émission, c'est l'heure pour moi d'aller chercher le dernier vinyle. Alors oui, c'est vrai, oui, j'ai plus de câble, ils ont bouché la trappe. Mais. Il y a un ascenseur. Vous venez avec moi, je vous emmène. Venez.
Allez, on est parti.
Didier, mais qu'est-ce que vous faites là? Ça, c'est marrant. Didier Lambrouille qui rencontre François Lambrouille.
Et c'est cette grosse tapette de Damien, ça? T'es pas venu avec ce gros con de François Lambrouille?
Dis donc, tu vas être poli, toi. Avec ton bigoudi géant.
Mon bigoudi géant. Tu vas voir où il va finir, mon bigoudi géant. On s'appelle Lambrouille tous les deux. Ça nous fait un point commun.
Ouais, enfin, il y en a un
monsieur.
Autre. Hein. J'aime bien mettre ma main dans la gueule des connards.
Je serais curieux de voir ça.
François, Didier. François, Didier. Mais arrêtez,
mais c'est ridicule, les gars. Non mais arrêtez, vous êtes malade. On est tous potes. Non, calmez-vous. Oh, musique.
Le monde entier. Dans leur cœur, il y a des cactus. Dans leur port, il y a des cactus.
The Dizzy Brains dans Pop 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 sur France Inter avec cette reprise des Cactus 2 du Tronc. François Damiens, nous voici à la fin de l'émission et c'est l'heure du moment magique. C'est-à-dire qu'il est l'heure de réécouter le meilleur ou le pire moment de cette émission. Vous êtes prêts?
Ouais, ouais.
C'est parti.
La goutte qui fait déborder le vase.
Mm-hmm.
It is a triple little big doot overloop.
Alors, heureux?
Bah oui, bah écoute, c'est tout ce que j'ai retenu du flamand que j'ai appris pendant des années.
Bon, merci François Damiens. Fourmi, ça sort mercredi prochain et c'est chaudement recommandé par Pop Pop Pop. Merci encore de nous avoir rendu visite. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique, Pierre-Yves de Rolin, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Arestat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain dans Pop Pop Pop. Jamie, oui, le Jamie de C'est pas sorcier. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yev à la pointe, suivez-nous. Plutôt comme disent ceux qui font des tutos, mon camion, c'est mon labo sur YouTube.
Allez Marcel, fais chauffer la gomme.
C'est-à-dire abonnez-vous à notre podcast et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, le 3615, pop 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 sur Instagram. Et...